Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette discussion hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur les suites visibles de ce qui se passe évidemment au Proche-Orient, suites sur le territoire national, puisqu'il y a importation du conflit, comme chacun sait, et également dans l'ordre international, et on va peut-être davantage se focaliser aujourd'hui sur Poutine et les fruits qu'il espère tirer de cette situation. C'est un commentaire un peu privé de Jean-Claude Casanova aujourd'hui, à cause de la tempête et des effets de la tempête qui bouleversent un certain nombre de lignes de communication. Donc nous en sommes désolés, et nous allons dialoguer aujourd'hui avec Dominique Moisy. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dominique Moisy, qui est éditorialiste aux Échos, vous pouvez le lire chaque lundi dans les Échos, et ainsi que conseiller donc de l'Institut Montaigne sur les grandes questions géostratégiques qui nous préoccupent aujourd'hui. Alors peut-être donc allons-nous commencer, Dominique Moisy, par ce climat qui existe en France, où on a vu ressurgir l'antisémitisme avec une explosion des actes d'antisémitisme, mais pas limité à la France aussi. Il y a quand même en Allemagne des faits graves qui se sont produits, en Grande-Bretagne pas mal d'incidents, en Italie aussi, pour ne pas parler des universités américaines, ou bien du cimetière, de la partie juive du cimetière de Vienne en Autriche qui a été incendié. Donc Dominique Moisy, comment regardez-vous cette explosion qui a même démarré, en tout cas en France, avant même toute riposte d'Israël, Dominique Moisy?
Comme un mal cyclique qui n'est jamais guéri et qui revient. Cette fois-ci, il revient porté, bien entendu, par le conflit du Moyen-Orient, qui sert de caisse de résonance à un antisémitisme qui a toujours existé, mais qui a pris à nouveau une nouvelle envolée. Alors, il faudrait bien entendu analyser les sources. Quelle est la part de l'antisémitisme classique d'extrême droite? Quelle est la part de cet antisémitisme plus limité mais très présent, l'extrême gauche? Et puis, bien entendu, la part de l'antisémitisme lié à l'islam et au conflit du Moyen-Orient.
Alors il me semble, moi, qu'on est quand même passé dans une phase différente des vagues d'antisémitisme précédentes, car elle est liée au fond à la détestation d'Israël et à la détestation aussi peut-être de l'existence même d'Israël. Et donc le fait que l'on diabolise Israël et sa politique conduit invariablement à justifier l'antisémitisme aux yeux de ceux qui le pratiquent, bien sûr. Donc cette diabolisation d'Israël, qu'on baptise du nom d'antisionisme, on dit mais nous ne sommes pas antisémites, nous sommes antisionistes, mais c'est cet antisionisme-là qui débouche assez souvent, oui, sur tout simplement l'antisémitisme classique. Mais on est là à la racine, au fond, de ce que porte l'existence même d'Israël, et donc de la diabolisation progressive de son action dans la région. Dominique Moisy.
Oui, c'est-à-dire les beaucoup d'hommes politiques israéliens disent Israël n'est pas seulement un État pour les Juifs, mais il est le Juif des États, c'est-à-dire sa légitimité n'est toujours pas reconnue pleinement par l'ordre régional. La rue arabe, entre guillemets, n'accepte pas l'existence de l'État d'Israël. Alors, il convient de dire que les performances d'Israël au cours des dernières années, en particulier depuis la venue au pouvoir de Benjamin Netanyahou, et plus encore depuis sa constitution d'un gouvernement avec des éléments d'extrême droite, n'aide pas l'image d'Israël dans le monde. Le 7 octobre 2023 n'est pas un point de départ. C'est pour certains le point d'arrivée, ignoble, inacceptable, mais d'un isolement progressif d'Israël, du fait de son essence, mais aussi du fait de ses performances.
Alors évidemment, il faudra attendre probablement la fin de la guerre, de cette guerre, de ce conflit, le mot conflit est d'ailleurs un petit peu impropre, mais pour mettre en question la politique de Netanyahou, justement, et probablement y aura-t-il, comme d'habitude en Israël, une commission d'enquête qui fera la lumière sur les fautes éventuelles du gouvernement Netanyahou, ne serait-ce que le fait d'avoir dégarni la frontière sud pour se préoccuper de l'aide militaire aux colons en Cisjordanie, qui est évidemment une marque très précise de la politique d'extrême droite qui était conduite, Dominique Moïsi.
Oui, je pense que pour le moment, on dit en Israël, nous verrons ces questions après la fin de la guerre. Pour le moment, nous sommes tous unis, on pourrait presque dire grâce au Hamas, dans une forme d'union sacrée contre la barbarie. Mais il est évident que on se posera des questions, que l'hubris dont a fait preuve Israël a été encouragé au sommet par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il est l'homme qui a failli à la tâche. La responsabilité principale de tout État, et en particulier d'Israël, est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Tel n'a pas été le cas le 7 octobre 2023.
Alors, beaucoup de choses sont en mouvement en même temps et on va peut-être regarder d'un peu plus près ce qui se passe du côté de la Russie de Vladimir Poutine, parce qu'il me semble qu'il y a quelques éléments qui conduisent à y réfléchir. D'une part, il me semble qu'il y a presque un changement d'alliance chez Vladimir Poutine. Je ne sais pas si on peut parler du mot alliance, mais jusqu'à présent, la relation entre Israël et la Russie était bonne. Elle est bonne depuis les origines avec l'Union soviétique, qui est quand même le pays qui, avec les États-Unis, porte l'existence de l'État d'Israël en 1948. Mais au-delà, il y avait eu une sorte de continuité d'une attitude russe et d'une connivence presque entre Russes et Israéliens. Et puis voilà que Vladimir Poutine a l'air de changer d'alliance et de se rapprocher davantage de l'Iran plutôt que d'Israël, d'une part. Et d'autre part, il y a eu une vague de bombardements aériens sur l'Ukraine il y a 48 heures, qui est sans précédent depuis le début de la guerre contre l'Ukraine. Et donc cela signifie tout simplement que Vladimir Poutine profite du fait que la tension est totalement internationale et totalement monopolisée par le conflit en Israël, entre Israël et Hamas, et en profite pour essayer de marquer davantage de points dans la guerre contre l'Ukraine, Dominique Moïsi.
Oui, c'est incontestable. On pourrait presque dire que les deux seuls vainqueurs du 7 octobre 2023 sont, sur le plan mondial, la Russie, sur le plan régional, l'Iran. L'Iran qui avait déjà bénéficié en 2003 de la seconde guerre du Golfe. On peut même dire que Téhéran avait été la seule puissance victorieuse de cette deuxième guerre du Golfe. Donc il y a dans le comportement de Poutine, dans ce quasi-renversement d'alliance, des calculs immédiats. Il y a une alliance objective qui s'est constituée entre l'Iran et la Russie. L'Iran a fourni des drones très utiles à Moscou dans sa guerre d'invasion contre l'Ukraine. Il y a une alliance objective aussi sur, je dirais presque, un plan émotionnel. Moscou renvoie l'ascenseur aux pays du Sud global en disant « Mais vous ne m'avez pas condamné avec autant de fermeté que le monde occidental lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, moi, je comprends vos émotions. Je sais qu'elles sont beaucoup plus du côté des Palestiniens que du côté des Israéliens, et je joue votre jeu. » Donc il y a une sorte d'alliance entre l'Est et le Sud contre l'Ouest, dont Poutine se sert pour faire oublier la guerre en Ukraine d'un côté, pour renforcer ses liens avec le Sud de l'autre. Il y a, je crois que la formule qui me vient naturellement à l'esprit est celle de renvoi de l'ascenseur. Vous m'avez compris, je vous comprends.
Par ailleurs, dans le spectacle actuel, enfin dans les événements qui se déroulent aujourd'hui, il y a quand même le fait que l'Iran a toujours eu un petit peu comme bras armé le Hamas, comme il a comme bras armé au Liban le Hezbollah. Et donc manifestement, ça ce n'est pas un obstacle pour Poutine, alors qu'en un temps, Vladimir Poutine prétendait être le principal rempart contre des mouvements islamistes extrémistes.
Oui. Bah, visiblement, et ça ne le gêne pas. Et je crois qu'il faut comprendre l'attitude de l'Iran. Au fond, l'Iran chiite, donc minoritaire, dans le monde musulman, entend compenser son infériorité numérique par un engagement beaucoup plus fort en faveur de la cause palestinienne. Il dit à la rue arabe, « Moi, je vous comprends. Moi, je vous entends. » Contrairement au régime sunnite qui se sont engagés dans les accords d'Abraham en trahissant la cause sacrée palestinienne.
Est-ce que ces accords d'Abraham ne sont pas d'une certaine façon caduques, parce que on voit même la Jordanie, qui est l'un des premiers pays à avoir établi des liens avec Israël, qui rappelle son ambassadeur, donc ça montre quand même que on ne parle plus d'ailleurs de rapprochement possible avec l'Arabie Saoudite, alors que c'était en principe la prochaine étape de ces accords d'Abraham, Dominique Moïse. Donc ça, c'est aussi un des effets immédiats de ce qui se passe aujourd'hui et de l'offensive du Hamas.
Bien sûr, on peut penser que la date du 7 octobre n'est pas seulement évocatrice du début de la guerre du Kippour il y a 50 ans, mais qu'elle correspond aussi à la volonté de l'Iran et donc du Hamas de faire en sorte que Riyad ne puisse se rapprocher de Jérusalem. Maintenant, est-ce que les accords sont caducs? Tel quel, oui, à moins que les États-Unis et l'Arabie Saoudite, la puissance militaire et quand même la puissance financière, ne se mettent d'accord pour exercer des pressions sur Israël et faire des accords d'Abraham le véhicule de la création d'un État palestinien aux côtés d'un État d'Israël. Donc, les accords d'Abraham, au lieu de faire l'impasse sur la question palestinienne, en face pour redémarrer le point d'ancrage, le point central. C'est un peu du rêve tout cela, dans le contexte actuel de la violence extrême à laquelle on peut assister à Gaza.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes en discussion avec Dominique Moïse, qui est donc aujourd'hui, qui est éditorialiste aux Échos et qui nous accompagne aujourd'hui dans cette discussion privée de Jean-Claude Casanova, comme je le disais tout à l'heure, pour des raisons d'intempéries et de tempêtes. Dominique Moïse, pour revenir un petit peu sur la Russie et dans sa guerre contre l'Ukraine, qui passe évidemment au second plan aujourd'hui. Il y a eu, il y a quelques jours, donc, une vague de bombardements sur à peu près toutes les régions ukrainiennes qui montre une volonté de la part de Vladimir Poutine de se saisir de cette captation d'attention par le Proche-Orient pour amplifier son effort de guerre contre l'Ukraine. Et dans le même temps, de façon très surprenante, une déclaration du chef des armées ukrainiennes qui laisse penser que, d'une part, la contre-offensive ukrainienne a échoué, et que d'autre part, l'avenir de le sort de cette guerre n'est absolument pas, ne prend pas du tout un tour favorable à l'Ukraine. Alors comment regardez-vous cela, Dominique Moïsi? Est-ce que d'une part c'est un énième appel au secours de la part des Ukrainiens, ou bien est-ce que la situation est plus grave que cela parce que la résistance russe pourrait se transformer en même temps en nouvelle offensive russe, Dominique Moïsi?
Oui, je dirais la réponse est un mélange des deux. Nous savions depuis quelques mois déjà que la contre-offensive ukrainienne ne donnait pas les résultats que Kiev en escomptait. Et puis arrive le 7 octobre 2023, l'attention du monde se détourne brutalement de l'Ukraine vers le Moyen-Orient, qui a une charge affective infiniment plus grande que ne peut l'être la guerre entre Européens à l'est de l'Europe, entre Russes et Ukrainiens. Et Poutine en profite doublement. En profite, nous l'avons vu diplomatiquement, en profite sur le terrain en se disant « je peux faire à peu près n'importe quoi, l'attention du monde est fixée sur le Moyen-Orient ». Alors, en même temps, chef des armées ukrainiennes dit, en particulier à ses alliés occidentaux, « Écoutez, je sais bien que vous avez vos regards tournés vers le Moyen-Orient, mais vous ne pouvez pas me laisser tomber, c'est très difficile, et si je suis vaincu, c'est vous qui l'êtes avec moi ». Donc le ton dramatique qu'il adopte correspond hélas tout à fait à la réalité de la situation militaire, mais correspond aussi à la volonté ukrainienne de dire « c'est maintenant que vous devez continuer à me soutenir, c'est maintenant, si j'ose dire, que les choses sérieuses commencent ». Donc vous êtes derrière moi, vous devez continuer à l'être.
On revient un petit peu à la case départ, c'est-à-dire au moment où on discutait de la lenteur de l'exécution des promesses par les pays européens et américains, principalement, de livraison d'armes et d'armes sophistiquées. Et alors, un certain nombre d'armes sophistiquées ont été livrées, mais en petit nombre, et les avions ne le sont toujours pas. En plus, les avions, les fameux avions F-16 sont toujours décalés de mois en mois. Est-ce qu'on n'a pas, justement, été un peu désinvolte dans cette attitude? Mmh. Quand je dis « on », c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis.
Oui, je crois qu'on peut le dire ainsi. Enfin, historiquement, on pourrait dire que l'Amérique finit toujours par faire le bon choix, mais très tardivement. Elle entre dans la Première Guerre mondiale en 1917, elle entre dans la Seconde Guerre mondiale en 1941. Il y a toujours un décalage entre ce qu'elle devrait faire et le moment où elle le fait. Alors, le chef des armées ukrainiennes est assez spécifique sur cela. Il dit « il faut une donne nouvelle ». Il ne dit pas, bien entendu, « j'ai besoin des F-16 américains tout de suite, j'ai besoin, etc. etc. » Mais il dit « si rien ne se passe sur le plan des livraisons militaires, eh bien, on peut s'attendre au pire ». Donc, c'est vraiment un appel du pied extraordinairement clair à Washington. Alors, je crois qu'un des points centraux de la situation actuelle, c'est que les Américains et les alliés européens de l'Ukraine doivent être conscients que les deux fronts sont importants et qu'il convient de soutenir et de contenir Israël, et il convient d'aider au maximum l'Ukraine. Enfin, on est dans une situation confrontationnelle comme nous n'en avons pas connu en réalité depuis 1945.
Et ça nous ramène devant le Congrès des États-Unis, parce que c'est précisément un moment où Joe Biden, qui semble vouloir justement pousser les feux, si j'ose dire, à la fois en faveur d'Israël et en faveur de l'Ukraine, est très sérieusement limité par une majorité, notamment à la Chambre des représentants, qui est un petit peu flottante et qui est pour grande partie trumpiste, donc isolationniste, donc très réservée, en tout cas s'agissant de l'Ukraine, pas d'Israël, Dominique Moïsi. Donc là, on est face à vraiment une inquiétude majeure, malgré tout.
Oui. Il y a une inadéquation totale entre le rôle classique, l'internationalisme américain, le flambeau de la défense de la liberté dans le monde que brandit avec beaucoup de panache et je dirais du talent Joe Biden et la réalité de la politique intérieure américaine. Il y a entre ce que veut l'Amérique et ce qu'elle peut faire à l'intérieur, il y a un décalage de plus en plus grand, et il est certain que Poutine attend avec impatience, et je dirais presque gourmandise, la date de novembre 2024, celle des prochaines élections présidentielles américaines, avec l'espoir pour Moscou que Trump reviendra au pouvoir. Et il se dit qu'il est important pour moi de tenir jusqu'à ce moment, en aidant l'Iran au Moyen-Orient, en poussant ma contre-offensive en Ukraine, et si je réussis sur ces deux fronts, eh bien, en novembre 2024, le peuple américain me donnera une sorte de quitus en élisant un président isolationniste.
On peut d'ailleurs toujours considérer que dans l'ancien vocabulaire communiste, Donald Trump est l'allié objectif de Vladimir Poutine. Et ça ne se...
Alors on pourrait dire, il y avait l'expression l'idiot utile, oui. Là on dirait le clown utile.
S'agissant de Donald Trump. Avant de nous séparer, Dominique Moïsi, je voudrais revenir un petit peu, très brièvement, sur le terrain. La France a condamné plusieurs fois les attaques d'Israël contre les sites des Nations Unies, et notamment après les frappes contre le camp de Jabalia. Plus, le président de la République a décidé d'envoyer un second porte-hélicoptère hôpital au large de Gaza, ce qui évidemment n'est pas critiquable. Mais comment regardez-vous ces critiques? Parce que en effet, là, de plus en plus, et plus le temps passe, et plus les bombardements s'intensifient sur Gaza, et plus il y a évidemment de morts civiles, et plus il y a d'enfants morts dans ces bombardements, plus la critique va monter et va rendre difficile l'aide à Israël, en tout cas en termes d'opinion publique. Comment voyez-vous ça?
Le dilemme d'Israël est complexe. Ils veulent détruire la branche armée du Hamas tout en préservant la vie des otages et en ne perdant pas trop l'opinion publique mondiale. On voit bien que ces trois objectifs sont difficilement compatibles. On a l'impression qu'ils ont donné pour le moment la priorité au premier, détruire le Hamas, en se disant que plus vite ils iront, mieux ils réussiront. Est-ce que c'est possible? Est-ce que cela sera bien le cas? C'est un pari.
Oui,
un
c'est sûr. En plus, sur le terrain, c'est extrêmement difficile parce qu'Israël dit vouloir cibler les militants du Hamas et pas les populations civiles à qui il a été demandé de quitter le nord de Gaza pour se réfugier vers le sud. Mais en même temps, il y a des frappes aussi au sud. Donc, on est là dans un exercice de plus en plus compliqué.
Oui, oui, oui. Non, je crois que Israël a fait le choix, sans doute inévitable, après la barbarie extrême du 7 octobre 2023, qui de plus l'a prise complètement par surprise, de donner la priorité à la riposte militaire, compte tenu de la stratégie du Hamas, d'utiliser les populations civiles comme bouclier humain, les dommages collatéraux sont considérables. Et donc, je crois que la position que vous rappeliez de la France me paraît tout à fait légitime. Soutenir Israël et aider les populations civiles de Gaza dans la mesure du possible.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Donc pour aujourd'hui, en tout cas, dans ces circonstances dramatiques que nous connaissons, merci à Dominique de Moisy de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes éditorialiste aux Échos, qu'on peut vous lire donc chaque lundi dans les Échos, et vous êtes aussi le conseiller en géostratégie de l'Institut Montaigne. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.